Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. En cette fin de semaine, excusez-moi, et pas ce début de week-end, oui, en ce vendredi 1er décembre. Eh oui, on passe sur le mois de décembre. On a terminé novembre 2023. 20h pétante, c'est l'horaire de votre quotidienne sportive qui est Time Sport. Chaque jour sur l'antenne de Beurre FM, la plus belle des radios. Au menu de cette émission, on va parler de l'Olympique de Marseille, une victoire avec beaucoup de buts, mais pas que. Le tirage au sort aussi de la phase finale de l'Euro 2024 en Allemagne dès cet été. On va en parler et on va revenir aussi sur ce Paris Saint-Germain. Où va donc le Paris Saint-Germain version Luis Enrique? Le 01 53 48 3000, rien de plus simple pour en parler avec toutes l'équipe, excusez-moi, qui m'accompagne ce soir. J'en perds mon latin avec justement les auditrices, les auditeurs, notamment le numéro, on le rappelle, le 01 53 48 3000. D'ailleurs, le débat du jour, Gattuso et ses hommes vous ont-ils convaincu? Voilà, avec cet Olympique de Marseille, tant de choses à dire sur l'Orange Vélodrome, pas que, sur les supporters, les supportrices, et sans oublier la direction de Marseille, en la personne aussi de Mehdi Benatia, l'ancien international marocain qui est conseiller sportif maintenant dans ce club de la cité phocéenne. Sans plus tarder, on va présenter le magnifique plateau qui m'accompagne et aussi passer un bon moment avec vous avant d'accueillir Vanessa 21h.
Time Sport. Il est pour parler.
On accueillera sur ce plateau Vivien, sans oublier notre journaliste consultante Alison, mais il est avec nous, c'est Ryan, ça lui fait ton plaisir. Lim, Jump, Van Halen.
Exactement,
ça va. Eh ouais, c'est bon. Oui. Oui, ça écoute, va, tranquillement.
On espère passer un bon week-end. En tout cas, ce soir, ça va être chaud. Il va y avoir de gros débats. Et il me tarde de parler de ce club.
Ah ben nous aussi.
Qui est l'Olympique de Marseille, bien sûr.
Avec l'équipe de Time Sport.
Exactement, avec l'équipe de Time Sport et bien sûr les auditeurs.
Les auditeurs, les auditrices, les gens qui nous accompagnent aussi dans ce magnifique studio. On a la personne de Tariq qu'on pourra apercevoir, au bout du fil, mais avec nous cette fois-ci. On lui avait fait la promesse. Tariq, il est bien avec nous. C'est l'auditeur. Eh oui, il connaît tant de monde dans ce studio. Je savais même pas. Et oui, mais aussi nous, on a du monde dans ce studio. On a des stars, on a pas que des stars, mais bon. On a Benji par exemple qui est avec nous. Bonsoir Benji. Tu vois, il est avec nous, Tariq.
Ah ouais, on l'avait promis, il est là. C'est de plaisir. Comment tu vas, Bilal?
Ouais, comment je vais? Mais après, on va devoir faire la file devant le studio parce que si tous les auditeurs, les auditrices arrivent en studio, on sait plus comment on va faire.
Ça va finir en chenille.
En tout cas, il a du potentiel, Tariq.
Sur l'étape, ça va être absolument génial. En tout cas, très heureux de finir la semaine avec vous.
Ah ben nous aussi.
Et on va vous accompagner où que vous soyez pour bien commencer le week-end ensemble.
Ah oui. Bruno Ayo. Il est avec nous, Bruno. Bonsoir, Bruno. Eh oui, il est passé comme ça, sur British ou le Belge. Il est là avec nous.
Tu exagères toujours. Bonsoir, ouais, Bilal. Ravi d'être là en tout cas. Ravi. J'adore ce petit micro là. Toujours, c'est toujours un plaisir. Tu vois.
Bruno.
Même pieds nus, je viendrai ici pour te dire. Bonsoir à tous.
Bruno, yo, il est là avec nous. On a eu l'arrivée de Vivien. Eh oui, Vivien, il s'est levé encore tard. Eh ben oui, il a suivi le championnat nord-américain qui est la NBA. Peut-être on a Benji faire un duo dans cette émission. En tout cas, lui, ça fait un bon moment qu'on l'a pas vu. On l'a aperçu, oui, on l'a écouté à travers le combiné. C'est Achille qui est avec nous, notre journaliste consultant. Achille, ça fait grand plaisir. Il y a beaucoup de personnes sur Marseille qui t'écoutent, notamment sur la tutosphère et pas que, mais qui écoutent bien aussi les conférences de presse du Paris Saint-Germain, tes questions finement posées. Et ce soir, tu es avec nous dans ce studio. Je crois que ça fait assez longtemps, Achille, près de 8 mois, je crois.
Ouais, c'est
ça. Tu n'es plus revenu.
C'est ça. Ouais. Donc, bonsoir à tous.
Bonsoir, Achille.
Ravi d'être à vos côtés, d'être de retour. Ça faisait longtemps que j'étais pas là. Bon, après, pour des raisons médicales, donc je pouvais pas forcément.
Oui, et puis pour des raisons de talent, tu es tellement fort, tu es tellement partout, Achille.
Faut pas l'écouter. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est un grand plaisir d'être de retour. Je souhaite un coucou à tous les auditeurs et aux auditrices. À Tariq, qui est là avec nous ce soir.
Ouais.
Et puis. À la jeune demoiselle aussi qui nous accompagne ce soir. Et au-delà de ça, petite précision, j'en profite dès maintenant.
Justement.
Pour mon petit retour.
Oui.
Aujourd'hui.
Des infos.
Voilà, non, c'est pas une info, mais.
Oui, non.
Bon, si, c'est quand même. Allez, c'est quand même une information.
Une tombola pour Camille.
Voilà,
c'est
exactement.
Ça. Un sourire pour Camille. Et
donc, c'est une association dont je suis le parrain.
Oui.
Donc, pour les enfants hospitalisés, on a décidé donc de lancer une tombola.
Ouais.
Qui est disponible à partir des réseaux sociaux.
Ouais.
Donc sur le lien, vous allez directement sur le Twitter ou le site internet ou l'Instagram de l'association Un Sourire pour Camille. Vous retrouverez donc le lien. Il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs personnalités du monde du foot, du football et d'autres sports qui se sont joints à cette occasion, notamment Kylian Mbappé, Teddy Riner, Marie-Antoinette Katoto, et puis plein d'autres.
NBA.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Audrey Tchouméo. Donc, je vous inviterai tous, à, si vous le souhaitez, à participer à cette petite tombola. Elle fonctionne de manière très simple. C'est un ticket qui coûte 5 euros et l'intégralité des fonds sera reversée à... l'intégralité des fonds sera utilisée pour pouvoir acquérir des cadeaux et les emmener et les offrir dans, aux enfants qui sont dans les hôpitaux.
Ah ben c'est pas c'est mal. Vrai. Association Bravo. Un Sourire pour Bravo. Camille. Oui, Achille, on le rappelle. Hein.
Et d'ailleurs, je lui fais un petit coucou parce que je sais qu'elle nous écoute.
Ah ben voilà,
Camille,
voilà. Nous embrassons.
C'est ça,
elle, sa famille, aussi. Ses amis.
Et puis ouais, Charlotte, et puis sa maman, etc.
Toute l'équipe. Donc, voilà. Elle est membre de cette fameuse association. Le 0153483000, c'est pour réagir avec toute l'équipe. Vivien, tu es bien à l'écoute, c'est là, Vivien.
On est bien, ça va. Ouais. Bah, bonsoir.
On m'a
à
dit
tous,
tant de bien de Vivien aussi aujourd'hui.
Bah, ouais. Avant qu'on commence dans la partie foot, moi j'ai envie de pousser un coup de gueule.
Allez, vas-y.
Je vois Céramine des GQ. Avec tous les hommes bien qu'il y a dans l'équipe Time Sport, aucun d'entre nous n'a été nominé. Moi, c'est je comprends pas. Que Bilal ne soit pas élu homme de l'année, moi, je comprends pas.
Là, 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 là.
Si quelqu'un entend de Zé Blando peut m'expliquer.
Avec ses mèches rebelles, là. On dirait Ahmed Yahyaoui tellement.
Il aime beaucoup Ahmed Yahyaoui. Nous passons le bonsoir à Ahmed Yahyaoui. Il faut respecter aussi dans le jour qu'il était. Très, très bon, Ahmed Yahyaoui. Eh oui, il avait remporté le championnat d'Europe. Moins de 17 remportés par là. Avec Benzema, avec qui avec.
Samir Nasri
aussi.
Ben Arfa le aussi. Le padéliste.
Ouais, il y en avait pas mal. Il est avec nous, c'est le réalisateur. C'est Solal. Comment ça va, Solal?
Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, les amis. Ouais, tranquillement, tout se passe bien. Adil qui vient de quitter les studios, lui passe un gros big up. J'espère qu'il va passer un bon week-end. Mais là, chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes bien dans votre quotidienne sportive avec Bilal Manet, j'en passe, des meilleurs. Et oui, vous allez suivre donc l'actualité sportive au plus près, voilà, des terrains.
On va en parler. Tout à fait. De Marseille, il y a Nasser qui nous écoute, 4 buts à 3. C'est l'Olympique de Marseille face à l'Ajax d'Amsterdam, 5e journée de cette Europa League. Et oui, ils ont fait plaisir, l'Olympique de Marseille. Peut-être Aubameyang, pas que. Assez dur quand même. Beaucoup de buts, Ryan.
Beaucoup de buts, c'est vrai, beaucoup de buts. Après, est-ce qu'ils nous ont fait plaisir? Ça, c'est une autre question. Je vais pas vous mentir, je suis pas hype en ce moment par les matchs du club phocéen. Et c'est vrai que le fait que Marseille gagne face à l'Ajax, c'était la moindre des choses, en tout cas pour moi. C'est juste la façon. Je pense que la façon est encore une fois à revoir, parce que mettre un but puis encaisser juste après, remettre un but, en encaisser juste derrière, je trouve ça immature, très très immature. Ouais. Je trouve que juste après, l'Ajax joue à 10 et puis Marseille n'arrive pas à conclure comme ils ne savent pas souvent faire. Aubameyang derrière qui marque un but et puis qui fait un peu le nerveux, je trouve que c'est pas non plus la situation adéquate, surtout pour Aubameyang qui fait pas un super début de saison.
J'ai envie de vous dire que
ils font un bon parcours en Europa League. Après, encore une fois, je suis très dur avec l'Olympique de Marseille, parce que je pars du principe où c'est un club aujourd'hui qui a évolué, c'est un club qui malgré tout a une belle ambition, c'est un club avec de vrais supporters. Et derrière, il en faut.
Parce que les autres clubs, ils ont des faux supporters.
Non, ils ont aussi de vrais supporters. Hein, ne t'embête pas avec ça. Ne t'inquiète pas avec ça. D'accord. Les autres clubs aussi de vrais supporters, qui sont tous humains, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que là, à Marseille, c'est différent. La ferveur, on peut dire ce qu'on veut autour de la table, mais la ferveur à Marseille, il y a quelque chose en plus. Il y a quelque chose en plus. La ferveur des supporters, c'est quelque chose en plus. Et moi, j'aimerais juste rajouter un petit truc.
Ouais, Ryan.
C'est que l'Ajax est 8e de leur au classement. Marseille aujourd'hui est 12e, 13e de Ligue 1. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, surtout au niveau du jeu. Ouais, on a vu aussi une petite anecdote, il y a une embrouille entre Illiman Ndiaye et Gennaro Gattuso qui sont embrouillés.
Merci de le rappeler. Ouais,
c'est
pas faux.
Tu vois, c'est des petits. En fait, pour moi, c'est des petites anecdotes comme ça qui me font pas plaisir. Même sur une victoire, on arrive mine de rien à retenir le mauvais côté, on va dire, du match. Et je trouve ça encore une fois désolant, parce que voilà, mine de rien, c'est un club historique français, et je trouve qu'aujourd'hui il mériterait beaucoup mieux que...
Beaucoup mieux. Benji, Achille, avec nous, Bruno, messieurs.
Depuis le départ de Didier Deschamps, ce club mérite mieux, c'est ça? C'est toujours le même discours. À un moment donné, faut arrêter. C'est un club qui est en perdition.
Perdition selon toi.
C'est clairement, c'est un club qui est en perdition. Chaque saison, depuis l'arrivée du nouvel actionnaire, l'effectif est changé à plus de 10 ou 12 joueurs. Il y a des joueurs qui ont été surpayés, il y a des joueurs qui n'ont pas apporté ce qu'on attendait d'eux sur le terrain. Et quand on voit la rencontre d'hier, pour revenir à la rencontre d'hier, on parle quand même d'un Ajax qui est malade, ouais. Qui est plus que malade. Et comme tu l'as bien signifié, Ryan, qui est en très mauvaise posture dans son championnat. Et aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, qui est 12e de Ligue 1, et ça faut bien le préciser, a réussi l'exploit de marquer moins de 30 secondes après, de se faire égaliser systématiquement et de gagner 4-3 sur un penalty extrêmement chanceux dans les
chanceux selon toi. Chanceux selon
dans les dernières secondes de la rencontre à 11 contre 10 à l'extérieur. À un moment donné,
c'est
compliqué quand même. Quoi.
Ça, c'est chaud. Bruno, peut-être pour agir avec Achille.
Oui, mais déjà, Gattuso n'arrive pas à savoir ce qu'il veut faire tactiquement. Alors, c'est bien de faire une équipe sur l'énergie.
Il y en a qui savent, peut-être. Si toi, tu sais pas.
Ça, c'est bien. Non, mais après, c'est bien de faire une équipe basée sur l'énergie, la grinta, la gara, on peut dire, dans toutes les langues, mais c'est compliqué en fait. Et de toute façon, tout ça, ça porte le sceau de Pablo Longoria. Cet été, il a vraiment fait une très grande erreur en prenant Marcelino. A essayé un 4-4-2 très très espagnol qui convient pas à la Ligue 1. Il est parti un peu en courant. Voilà quoi. Donc les mains sur les fesses, entre guillemets.
C'est Ryan qui allait pousser.
Voilà. Franchement, c'est pas terrible. Longoria, il a tout raté. Il faut vraiment que ce club se remette.
Il a tout raté. Oui,
Marseille doit se ressaisir. Le monde en de Bruno. Ryan.
Il a tout raté. Oui et non. Parce que mine de rien, il a quand même fait de jolies choses grâce à Longoria et son travail. On a pu accéder à une finale d'Europa League, je vous le rappelle.
Cette
saison. Après, mine de rien, ils ont quand même fait un super mercato. Sur le papier, en tout cas, c'était un bon mercato avec de bons joueurs expérimentés. Aujourd'hui, on arrive à être 12e du championnat, on arrive à être premier, certes, en Ligue Europa, mais c'est vrai que c'est, comme l'a dit Achille, et je le rejoins, mine de rien, c'est aberrant de voir qu'en un été, on a fait deux entraîneurs. Je vous rappelle que c'est historique de faire deux entraîneurs comme ça en un été.
Ça tourne pas mal, hein.
Ça tourne pas mal, les effectifs pareils.
On a appris. Alors, Manji.
Mais c'est à l'image du manque de continuité qu'il y a à Marseille depuis 4 ans. Enfin, c'est logique, c'est un club qui n'arrive pas à ancrer une vraie dynamique avec de vrais leaders, avec un vrai coach qui amène quelque chose. La seule chose qu'on arrive à voir avec Gattuso, c'est qu'on a un OM qui a deux visages, qui a un OM qui marche en Ligue Europa et un club qui n'avance pas en Ligue 1. Et la différence que je vois avec les matchs de Ligue Europa et les matchs de Ligue 1, c'est qu'en Ligue Europa, les Marseillais jouent contre des équipes qui sont beaucoup plus ouvertes, qui sont moins compactes défensivement et qui ont un bloc beaucoup plus haut et beaucoup plus joueuse. Et ce qui fait que l'OM, on a l'impression qu'ils arrivent du coup à tirer et à réussir à mettre au porte-à-faux des adversaires qui sont très joueurs et qui manquent de réussite, comme l'Ajax d'Amsterdam, qui est peut-être le pire Ajax qu'on a vu depuis 10-15 ans. Enfin, de mémoire, j'ai pas vu un Ajax qui est aussi mauvais depuis très longtemps. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que l'OM, pour qu'ils arrivent à développer une 11 de jeu, faut qu'ils soient en supériorité numérique contre une équipe qui joue très ouvert et qui n'a pas de vraie base défensive. C'est très inquiétant.
Achille, Ryan.
Ouais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose aussi que j'ai pu analyser pendant ce match. C'est que j'ai trouvé la défense de l'OM hier soir, c'était aberrant. C'est-à-dire que Berghuis, le milieu offensif néerlandais, il arrivait à trouver ses attaquants, mais tellement facilement, c'était la défense, elle était inexistante. C'était vraiment une défense passive.
Mais il y avait personne.
C'est-à-dire que. Et puis, on va pas se mentir, des deux côtés, de l'Ajax aussi, c'est pour ça que.
C'est pour ça que je parlais de défense très ouverte et de joueurs très ouverts. Parce que t'as plein de joueurs de l'OM qui peuvent bien prendre des profondeurs, créer le déséquilibre facilement. Et dès que tu as fait un déséquilibre sur une équipe qui joue très ouvert, forcément ça te mène des occasions de but.
Ouais, mais pour moi, c'est pas une équipe à double visage. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, ça, c'est difficile parce que tu tombes contre des clubs, face à Nice qui ont une défense solide avec Dante, tu tombes face à une défense, tu vois, à Lens où les défenseurs Medina, tout ça, ils tiennent le coup. Inexistante à l'Ajax, tu tombes sur une défense aussi très passive avec Dunk à Brighton. Enfin, c'est. Mine de rien, c'est aussi très compliqué pour les clubs en face.
Allez, vous restez avec nous. On revient avec Ryan, c'est premier, toute équipe de Tam Sport. Rien que pour vous, 01 53 48 3000, où vous pouvez réagir, chers auditeurs et auditrices.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h19, vendredi 1er décembre, début de week-end, on espère pour toutes et tous. On est en compagnie de qui ? Alison nous a rejoint. Eh oui, on devra l'entendre, Alison, parce qu'il y a beaucoup de la gente féminine qui aime Alison sur l'antenne de Beurre FM avec ses propos concernant la planète sport et pas que. Vivien, ça te fait sourire, je sais pas pourquoi, j'ai pas le droit de dire Alison ?
Si, si, non, mais non, elle est pertinente. Ouais. Bon, des fois, elle dit 2-3 bêtises, mais ça.
Attention, c'est Jouba, qui nous écoute.
Non, sans blague, c'est une journaliste très très compétente qui mériterait de faire des très très gros projets en plus de Beurre FM.
On est avec Bruno, Ryan, sans oublier Benji et Achille, sont là avec moi, sont de la partie. Un petit clin d'œil encore une fois au Kazaoui qui nous écoute ce soir, hein, la personne de Tariq et aussi de Sabrina qui nous retrouve depuis le sud de la France. C'est bien ça, Ryan, hein?
Exactement.
Voilà, exactement. Allez, place au second dossier de l'émission.
Time Sport. La parole des sociaux.
Ça va, Solal. On aura compris. Oui, c'est vendredi soir. Et la droite, c'est ça. Oui. Le tirage au sort dès demain, 18h, du côté d'Hambourg. La France, quel enjeu pour cette équipe de France ? Achille, alors, les hommes de Didier Deschamps.
Alors, juste avant de parler des hommes de Didier Deschamps, rappelons quand même que ce soir, il y a les femmes d'Hervé Renard.
Oui.
À 21h. Qui joue à Rennes, un match de la Ligue des Nations. Donc il faut impérativement être derrière les femmes d'Hervé Renard en espérant une victoire et qu'elles puissent rapporter ce premier trophée, j'ai envie de dire, d'une compétition internationale qui est donc la Ligue des Nations et on sera derrière elle.
Ah ben nous aussi. Achille, première des choses. Deschamps. Bon, les Bleus, après l'Euro 2024.
Bah écoute Bilou, l'Euro 2024, c'est peut-être une des compétitions peut-être les plus compliquées à pouvoir remporter. Quand tu vois les effectifs qui sont présents maintenant, j'ai envie de te dire avec le rythme des rencontres tout au long de la saison, le nombre de joueurs blessés, le nombre de joueurs suspendus, les scandales, l'équipe de France est peut-être une des nations qui est peut-être le mieux armé parce qu'elle a le plus gros vivier.
Ouais, on en parle de ce vivier à chaque fois.
Tous les ans, vous avez à peu près 3, 4, 5 joueurs qui émargent et qui sont en mesure de pouvoir suppléer les titulaires. Donc, 7 euros qui arrivent en Allemagne, et en plus de ça, comme on sait, on connaît très bien la rivalité qui existe entre ces deux nations, la France et l'Allemagne. Ce serait peut-être le plus beau des cadeaux pour les Français de remporter une Coupe d'Europe en terre allemande. Ça serait un des plus beaux, c'est ça, la définition du bonheur.
Ah, carrément.
Après, ça va pas forcément être facile, mais il est quand même extrêmement important d'être derrière les Bleus. Et moi, j'ai aucun doute sur le groupe de Didier Deschamps, sur les joueurs qu'il va convoquer. On les connaît quasiment tous, hormis peut-être potentiellement peut-être une suspension ou une blessure. On connaît déjà son groupe. Il y aura pas vraiment de surprise. Et on sait que Didier Deschamps, quand il est, il y aura pas vraiment de surprise.
Ouais,
quand il est en compétition internationale, Didier Deschamps, dès qu'il passe les poules, dès qu'il passe les huitièmes, c'est la finale.
C'est la finale, selon Achille. Bruno et Benji, tant de choses à dire là.
Alors déjà, les Allemands, bonne chance à eux, avec Nagelsmann qui met Kaya vers arrière-gauche. Ils se font des nœuds au cerveau. En
attention,
plus,
on ne te moque pas.
Contre les rivaux historiques. Donc, bonne chance à eux. Non, mais l'équipe de France est incroyable. Hein. Moi, je regardais France-Gibraltar. Bon, je regardais d'un œil, mais c'était en fait. Après, tu te rends compte, en fait, mais quelle équipe, quoi, quels joueurs. Ils sont même pas très coachés. C'est-à-dire que Deschamps, en gros, bon, ils laissent les créatifs faire leur travail et surtout une base défensive très bonne descente. Mais c'est là que tu vois que la formation française, il y a une Aïssna, et maintenant tu vois que la formation française, c'est quelque chose de très qualitatif. Zaïre Emery qui marque, et la France est le grand favori de cet Euro avec l'Espagne, aussi l'Espagne qui a gagné la Ligue des Nations. Mais franchement, cette équipe de France, elle a tout normalement pour remporter cette compète, sachant qu'en plus, bon, ce sont des compètes. Après, le piège, c'est que ce sont des compètes à rallonge. Donc, vous avez des troisièmes de groupe qui passent, huitièmes. C'est une nouvelle compète qu'on a où un peu tout le monde est qualifié. Tout le monde peut participer. Donc, donc c'est ça aussi qui a piégé l'équipe de France contre la Suisse. Donc, il faut faire attention, mais pour moi, il y a aucun doute. L'équipe de France est incroyable. Franchement, le jeu est. Et je trouve que cette équipe, le talent de ces jeunes joueurs et leur gouache et leur intelligence tactique est incroyable. C'est incroyable. Quel régal.
L'équipe de France est favorite. Maintenant, après, il va falloir que Didier Deschamps confirme la confiance qu'on lui donne depuis plus de 10 ans maintenant. Et moi, j'ai toujours émis des doutes sur cette antenne, sur la capacité de Didier Deschamps à être l'homme de la situation et de proposer un jeu qui est en adéquation avec l'équipe qu'il a. Après, l'équipe de France a de très loin, pour moi, la meilleure équipe, en tout cas sur le papier. Après, on sait que ça peut bouger. L'Allemagne qui est à domicile, forcément, si elle trouve une dynamique, ça peut faire quelque chose. Après,
ça va être dur.
C'est
être
une
dur,
des pires Allemagne depuis très longtemps. On parlait de l'Ajax tout à l'heure. Bah, l'Allemagne, franchement, excusez-moi, j'ai rarement vu une équipe d'Allemagne aussi mauvaise depuis très longtemps.
Et le coach aussi se fait découper.
Non, mais c'est vrai que là, l'équipe de France, pour moi, c'est mission titre, parce que sinon pour moi ce sera un échec. Alors évidemment, évidemment tu peux rencontrer une équipe d'Angleterre qui a forcément un gros niveau.
Si Bellingham a son niveau ballon d'or, attention.
On est d'accord, mais si Mbappé a son niveau ballon d'or, normalement il doit aussi aller la chercher. C'est aussi le moment où Mbappé doit tirer le meilleur de son équipe et montrer que c'est un vrai leader d'une nation.
Mais
je suis entièrement d'accord avec toi, ils ont une très bonne équipe. Mais excusez-moi, on arrive quand même à une équipe de France qui doit aussi arriver à maturation et qui doit arriver à maturité et qui doit réussir à être capable de prendre le titre en 2024 après les échecs qui sont arrivés récemment. Que la Coupe du Monde, dis pas que la Coupe du Monde a été une réussite, la dernière Coupe du Monde. Tu as certes en finale, mais tu dois te faire sentir par le Maroc et l'Angleterre au vu de la qualité de jeu proposée et même dans le jeu. Ils doivent te sortir 100
fois. Juste la séance de tir au but contre l'Argentine, tu n'as pas existé. Ça,
je rappelle, l'équipe de France se trouve bien sûr dans le chapeau numéro 1.
Ouais, les chapeaux, justement, on les a avec
l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, la Belgique et l'Angleterre. Voilà, c'est le chapeau.
C'est quelque chose.
C'est un chapeau assez compliqué. Complexe, on va pas se mentir. Voilà,
chapeau, c'est-à-dire qu'ils seront, ils peuvent pas se rencontrer.
C'est pour ça, effectivement, j'allais venir, moi, Achille, bien sûr. Donc, on évite, on va dire, le pire, entre guillemets.
C'est ça.
Moi, pour revenir un peu sur ce qu'on a dit là avec l'équipe de France, je pense que il faut pas s'enflammer trop vite. Faut voir parce que c'est vrai que les blessures peuvent très très vite arriver.
La meilleure équipe selon Benji, Bruno, Achille, oui, c'est ça, y a pas de problème. Mais après, faut voir aussi.
Certes, sur le papier, ok, c'est la meilleure équipe, tout ça, on peut dire ce qu'on veut, mais derrière, ça peut aller très très vite. Aujourd'hui, on a toujours pas Tchouaméni, il y a toujours pas Kamavinga. Warren Zaïre-Emery, en fait, pareil, on sait pas
si il va jouer en devant qui compte.
Aujourd'hui, vous avez un Bouba Camara, tu connais très bien.
Oui, bien sûr.
Tu as l'avènement de Warren Zaïre-Emery. Tu as Adrien Rabiot qui est toujours présent, tu as Youssouf Fofana et il y en a plein d'autres.
Camara, j'adore Camara. Pour toi, Camara, le niveau pour jouer à l'Euro?
Mais pourquoi il ne peut pas jouer?
C'est
toi-même qui l'a dit qu'il y avait un gros vivier.
Non, mais il fait partie de ce groupe. De ce groupe élargi, c'est-à-dire.
Ouais, mais un groupe qui a 26 joueurs. Le groupe, il y a 26 joueurs.
Justement, avec 26 joueurs, tu peux avoir Camara dedans.
Oui, tu peux l'avoir dedans.
Mais c'est un des derniers noms que tu coches.
Mais il a les qualités pour pouvoir s'inscrire dans cette équipe. À un moment donné, il faut le reconnaître, depuis son départ de l'Olympique de Marseille, ce qu'il fait en Angleterre, je suis désolé, il est quand même titulaire avec Unai Emery,
avec Aston Villa,
depuis plusieurs années. Il a sa place.
Après, avec le truc, c'est que, encore une fois, c'est les enchaînements, c'est-à-dire les enchaînements des matchs. Les joueurs aujourd'hui se plaignent parce qu'ils enchaînent énormément les matchs. Là, par exemple, les joueurs hier qui ont joué l'Europa League, ils vont jouer demain. C'est-à-dire, voir certains après demain. C'est-à-dire qu'ils ont 2-3 jours de repos max. Et si ça continue comme ça.
On l'a connu déjà, Ryan.
Sauf que c'est, pour l'instant, Bilal, ils ne sont pas encore.
On va savoir après comment ça va se passer.
Le truc, c'est que moi, j'ai peur, mine de rien. De se retrouver comme là à la Coupe du Monde où on a été on a pas joué, enfin il y a pas, mine de rien on est arrivé en finale, mais c'est vrai qu'on a joué sans Nkunku, on a joué
sans Pogba, sans Kanté, tu fais quand même finale de Coupe du Monde,
donc ça prouve que quelque part
c'est l'Angleterre. Rappelez-vous aussi les matchs qu'on a fait contre le Maroc, contre l'Angleterre, c'était chaud les gars,
mais les conséquences sont pas les mêmes si l'Angleterre ou l'Espagne a des blessés que si la France a des blessés.
Ah
oui, bien sûr, je rejoins Achille là-dessus. Avantages. Enfin, tu peux, il n'y a aucune nation qui peut dire.
Une réaction.
Peu importe les blessés qu'on va avoir, je mets des guillemets là-dessus, évidemment, parce qu'il y a quand même des joueurs majeurs dans cette équipe.
On est d'accord.
On aura toujours des gars qui seront derrière, qui seront motivés, qui pourront aller faire la différence sur le terrain.
Ouais, Solal, rapidement, avant de retrouver Alisson.
Oui, tout à fait. Pour les auditeurs qui nous écoutent, vous aurez sûrement reconnu, donc ramener la coupe à la maison de VG Dream. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Alors dernier Euro qui s'est passé en 2021, le pays qui a le plus écouté cette musique, c'est bien la Suisse qui a gagné contre la France. Donc, faut pas se méprendre, les amis. On était très très confiants à cette période-là. Plus que confiants, on avait un collectif avec des grands noms, malheureusement, qui ne sont plus dans ce collectif de l'équipe de France, tels que Pogba, Karim Benzema. Et la France a quand même réussi à ne pas aller au bout donc, de ces phases finales-là. Donc, c'est beau de citer des noms, des futurs Zaïre Emery, plein de joueurs qui vont
présent,
voilà,
déjà
très
effervescents. C'est pour ça qu'on met en avant les défauts des champs.
Mais en même temps, voilà, ce problème qu'on a avec la France, telle qu'on la connaît depuis maintenant, allez, 6-7 ans, voyons les choses en large, c'est qu'on se méprend souvent et qu'on voit un peu trop les choses en grand avant même d'avoir goûté. On est un peu trop gourmand.
Merci Solal.
Mais dans tout ça, t'as fait une finale d'Euro, une finale de Coupe du Monde, une Ligue des Nations, une Coupe du Monde gagnée. Mais juste le truc contre la Suisse, c'est encore une fois perdu au tir au but. Donc il y a une réflexion à faire parce que c'est dommage ce qui s'est passé à Doha.
C'est vrai, c'est vraiment dommage. Alisson, la réaction. Allez, on va écouter Alisson.
Non, moi, le seul bémol que j'émettrais dans cette équipe de France, je suis d'accord que cette équipe de France, sur le papier, intrinsèquement, on a les joueurs les plus qualitatifs aujourd'hui en Europe, voire même du monde et à tous les postes. Même les seconds couteaux aussi, je les ajouterais dans l'eau. Le problème, c'est que j'émets toujours un bémol sur Didier Deschamps et sa capacité tactico-technique à évoluer pendant le match. C'est-à-dire que quand l'équipe est prise en étau, si le milieu de terrain, on met un gros impact, la défense, on sait que parfois, ça chancelle. Et quand on prend bien les ailiers, c'est-à-dire Kylian Mbappé, prise à deux, et éventuellement Ousmane Dembélé ou Coman,
Alisson
on sait
a raison.
Que ça va plus aussi vite. Et on sait que Didier Deschamps a du
on
mal
est dans
à
le
faire
vrai. Évoluer. Ça te fait rire, mais c'est la vérité, ce qu'elle dit.
Effectivement, en fait, quand la France va bien, ça déroule. Mais quand la France est un peu accrochée en difficulté et qu'on lui met un gros impact technique, il est là, justement, ce bémol que je mets. Et Didier Deschamps doit réagir, justement, avec les joueurs que vous avez cités, les seconds couteaux, les Zaïre Emery, pourquoi pas, pour apporter de l'impact et une autre vision du jeu.
Non, mais après, t'as totalement raison, Alisson. On va toujours remettre en cause le coaching technico-tactique de Didier Deschamps et son niveau qui peut paraître très exécrable, à savoir, t'as l'impression que c'est encore France 98 où il bétonne et t'attends
que c'est
il
dur.
Bétonne, il bétonne et t'as un joueur de génie, d'exception qui fait de la magie et tu gagnes les matchs. Mais c'est une méthode qui fonctionne et que malheureusement pour notre plaisir au niveau des yeux, c'est dégueulasse. Mais par contre, pour lui, il faut le dire, quand tu as Kylian, Ousmane, Coman, et la liste elle est longue,
il a beaucoup de chance à Deschamps, je tiens à le souligner. Il a énormément de chance.
T'as des joueurs d'exception qui sont capables de te débloquer.
On va revenir, Ryan. Garde en tête ce que tu as à balancer sur l'antenne de Beurre FM. On va revenir, c'est promis, concernant l'équipe de France, sans oublier le Paris Saint-Germain, le club de la capitale.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour pour la dernière partie de cette émission, toujours en compagnie de toute l'équipe de ce vendredi soir. On rappelle Alisson, la ravissante consultante Alisson qui est avec nous, Achille, Vivien, sans oublier Ryan, et aussi Benji qui m'accompagne. Un gros big up à Bruno. Et on rappelle aussi qu'on est en studio avec Sabrina et Tariq qui nous accompagnent. La France, le 0153483000, phase finale de cet Euro 2024. Demain soir, c'est le tirage au sort, 18h, heure de Paris, du côté de Hambourg, la maison mère d'une certaine marque. Aux flèches d'argent, c'est ça. C'est bien ça. Hambourg, on va écouter Benji. Benji, l'équipe de France. On revient à toi avant de retrouver Alisson.
Le Paris Saint-Germain. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, je vous trouve très indulgent avec Didier Deschamps et notamment, comme le disait Alisson, sur le côté tactico-technique. Pour moi, on est proche du zéro absolu et ça me fait très peur. Je suis désolé de le dire aussi crûment parce que quand tu te reposes uniquement sur des individualités et que tu laisses faire tes joueurs, pour moi, ça pose un vrai souci. Quand t'as la meilleure équipe du monde,
pendant aussi longtemps, pendant ces 6, 7, 8 ans que l'a eu l'équipe de France. Pour moi, si tu impulses une vraie énergie, si tu impulses une vraie dynamique et une vraie identité de jeu, tu es capable de faire ce que l'Espagne a fait en 2008, 2010, 2012 et aller chercher un triplé.
C'est pas le même style de jeu. C'est comme si tu demandais à Deschamps.
Je te parle pas de le même style de jeu. Je te parle d'avoir un vrai style et une vraie identité. Ce que Deschamps n'a pas.
Ce que j'ai dit la dernière fois. Ce que j'ai dit la dernière fois. Quand on rentre dans une compétition comme ça, il faudrait avoir des plans de secours. Il faudrait avoir des dispos de secours, une stratégie de secours aussi, parce que comme l'a très bien souligné Alisson, l'équipe de France, quand elle est secouée, derrière, elle a du mal à réagir. Et c'est vrai que là, pendant l'Euro, on va tomber sûrement contre des têtes d'affiche comme Bellingham, comme Cristiano Ronaldo. Je veux dire, franchement, ça va être très compliqué parce que là, on va se préparer vraiment au pire. Donc il faut vraiment se préparer et arriver dans cette compétition.
Il faut avoir des techniques face à de la tactique bien en fonction de l'adversaire que tu vas affronter. Tu vas pas jouer de la même façon contre l'Espagne que tu vas jouer contre l'Angleterre contre l'Allemagne. Et c'est ça en fait que Deschamps doit aussi amener dans cette équipe de France et doit pas avoir un plan de jeu unique et se reposer là-dessus. Et c'est ça le souci, ça que je dénonce, et c'est vraiment là où j'ai envie que l'équipe de France passe un step pour avoir cette capacité à justement être le leader, vraiment être le dominant de A à Z dans une rencontre et être vraiment la première nation qu'elle doit être.
Il y a l'équipe de France avec et sans Antoine Griezmann.
Alisson, l'Euro 2024, on termine avec toi avant de retrouver le Paris Saint-Germain.
Non, mais comme il a été dit, surtout avec l'effectif que Didier Deschamps a, il peut s'amuser. Honnêtement, il peut s'amuser sur toutes les lignes, sur tous les postes, au milieu, en attaque, il peut faire des changements, il peut, les titulaires, d'en faire des remplaçants et les remplaçants, limite, en faire des titulaires. Donc, effectivement, moi, ce que je lui ai toujours reproché à Didier Deschamps, alors je le critique pas, mais c'est vraiment un reproche si on veut atteindre la perfection, si bien qu'elle existerait, c'est que, effectivement, quand on a cette assise défensive, que on a depuis 10 ans la philosophie de Didier Deschamps, c'est d'abord la défense, gérer, ne pas prendre de but et ensuite attaquer et marquer. Je pense que on devrait un petit peu varier et trouver peut-être un juste milieu dans cette équipe.
On verra bien en tout cas, c'est promis. Demain, le tirage au sort, donc 18h du côté d'Hambourg, de cette phase finale de l'Euro 2024. On espère un bon groupe pour cette équipe de France, Achille, avec toute l'équipe de Tamsport. Le 0153483000 si vous voulez réagir. Mais là, ça va dans tous les sens, Vivien. C'est vrai, le Paris Saint-Germain. Où va-t-on avec le Paris Saint-Germain? C'est la question que l'on se pose.
On sait
c'est
pas,
vrai.
On y va.
On sait pas. On sait pas, mais en tout cas, le Paris Saint-Germain fait plaisir et est bien toujours là en lice pour cette coupe aux grandes oreilles qui est la Champions League sur cette édition 2023-2024. On aimerait encore voir Achille loin, loin, loin dans la compétition avec ses fameuses questions dans zone mixte. Hein, non, mais c'est vrai. On sait pas. Il aime bien titiller cette.
Achille aime bien.
Achille, il aime bien, mais aussi le coach aime bien aussi chatouiller les chevilles, pas que. des journalistes.
Attention,
on va rester tranquille. La dernière rubrique de cette émission.
Sport, le mode pressing.
Et oui, Vivien, allez le Paris Saint-Germain.
Oui, bon, où va le Paris Saint-Germain? Déjà, ce week-end, ils jouent au Havre, l'équipe du ventre mou. Je sais pas, normalement, ce genre de match, on a envie de se dire, c'est une formalité, mais comme j'ai dit, c'est que le processus Enrique, c'est que déjà, premièrement, à chaque match, il aime bien changer les compos. Et comme on disait mercredi, pour moi, Luis Enrique, c'est le Nico Saliagas de la Ligue 1.
C'est-à-dire
chaque week-end, il gère comme un prime de la Starac. C'est-à-dire qu'il peut changer 8 joueurs, il peut changer la charnière, il peut tout changer. Cette semaine, il a ressorti Danilo qui n'avait pas joué depuis un mois. Donc, on a un coach tactiquement, c'est un génie, beaucoup plus fort que Galtier pour moi. Mais on a du mal là-dessus. C'est pour ça qu'on a le côté prime comme ça où, ben voilà, les auditeurs comme nous, on va tous regarder dimanche et on va découvrir quels seront les duos, quelles seront les associations, etc.
Il y a Samir qui nous écoute, il te passe le bonjour. Et aussi à Alisson, voilà, qui est à l'écoute de Beurre FM. Achille, le Paris Saint-Germain, justement. Ouais, moi, on revient sur ce PSG.
Sur ce PSG, moi, je vois très bien où est-ce qu'il veut aller.
Ouais.
Sauf que le grand problème, c'est qu'il faut comprendre. Et malheureusement, le grand public ne le comprend pas. Elle ne le comprend pas parce qu'il a effectivement des aptitudes à avoir des schémas technico-tactiques. Et là, tout le parallèle du Didier Deschamps il a des années-lumière effectivement d'un Didier Deschamps, où ce qu'il veut mettre en place est une philosophie extrêmement précise et qui nécessite plusieurs étapes. Et qui, plusieurs, ces mêmes plusieurs étapes-là nécessitent à l'heure actuelle qu'effectivement tu changes régulièrement ton 11 de départ. Effectivement, on aimerait peut-être avoir un peu plus de continuité pour avoir un peu plus de certitude d'un point de vue visuel, mais je vous garantis que lui, les certitudes, il les a. C'est-à-dire que quand tu as fait mention de Danilo Pereira qui fait son retour après un mois d'absence, oui, c'est vrai, mais il était blessé, il est revenu. Son retour était prévu pour cette rencontre-là. Initialement, les dernières informations, il n'était pas prévu d'être sur la feuille de match, enfin d'être dans l'11 titulaire, mais il se serait passé quelque chose avec un certain joueur qui aurait eu des douleurs, qui aurait eu donc des petites douleurs et qui n'a d'ailleurs pas joué cette rencontre, ce qui aurait poussé Luis Enrique à faire rentrer Danilo dans cette équipe. Mais là, t'as parlé de Danilo, d'ailleurs, qui te ressemble beaucoup, Vivien. Mais au-delà de ça, le problème du Paris Saint-Germain n'est pas tant sur le 11 qu'il met. Le problème du Paris Saint-Germain est la lucidité offensive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous constatez depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain est une équipe qui met en moyenne 3 buts à chacun de ses adversaires, peu importe ses adversaires, peu importe le niveau de ses adversaires. Et quand on voit le nombre d'occasions qu'il se procure, eh ben, il pourrait en mettre 6, 7, 8 ou 9. Et il y a certains jours où tu vas avoir ce manque de réussite, et notamment face à Newcastle, qui s'est parfaitement caractérisé, et où le Paris Saint-Germain en fait a manqué vraiment de lucidité et de verticalité dans certains choix. Et là, quand tu es en Ligue des Champions, effectivement, tu as des adversaires qui sont un peu plus solides, un peu plus costauds, un peu plus malins, un peu plus vicieux. Et partant de ce principe, tu peux perdre des matchs, ça arrive, mais on est dans un processus qui va prendre du temps et c'est normal.
Selon toi, Ryan.
Moi, je pense que ça va au-delà de tout ça. C'est-à-dire
alors
que,
pourquoi
pour moi, le Paris Saint-Germain, je l'assimile souvent avec Manchester City, qui, le club anglais, a été racheté en 2008 par
ils
le Qatar.
Ils sont plus du tout au même point.
Et aujourd'hui.
Non, pas par le Qatar.
Ouais,
les Émirats arabes unis.
Autant pour moi, excusez-moi. Ça a été acheté en 2008. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain, ils ont fait, pour ma part, et ça reste mon avis, les choses à l'envers. C'est-à-dire que au lieu de se concentrer potentiellement au début d'essayer de pouvoir apporter une Ligue Europa à son palmarès pour débuter dans une grande compétition, ils ont voulu voir les choses en grand et faire directement les choses en acheter.
Mais c'était pas la politique, c'était pas l'objectif.
Oui, je sais, mais c'était pas l'objectif.
Comme Manchester City, c'était pas l'objectif aussi non plus.
Bien sûr, les amis, regardez l'objectif, ça fait l'objectif. C'est quoi? C'est la Ligue des Champions, mais le problème c'est que l'objectif n'est pas.
J'ai pris l'exemple de Manchester City, combien de temps ça leur a pris?
Mais c'est ça, 15 ans. J'allais venir à Alisson, c'est-à-dire que moi je pars du principe où d'abord il faudrait acquérir cette expérience-là dans les grandes compétitions, et moi je pars du principe où le Paris Saint-Germain n'a pas cette expérience encore une fois. C'est-à-dire que toutes les fois où le Paris Saint-Germain a atteint une certaine limite dans cette compétition, ils sont arrivés en finale pendant le Covid, c'était les règles étaient complètement changées d'ailleurs.
Oui, comme quand l'Olympique de Marseille a remporté sa Ligue des Champions.
Non, mais aussi, ça c'était des règles aussi. J'en parle pas, Achille, parce que voilà, on parle du Paris Saint-Germain.
Marseille, c'était pas la même formule.
Ça, t'aurais pu le sortir tout à l'heure. C'est vrai, c'était Marseille. Là, on parle du Paris Saint-Germain. Là où je veux en venir, c'est que pour moi, ils auraient dû faire les choses dans l'ordre. Parce que, voilà, ils ont fait un super mercato dès qu'ils ont été rachetés par le Qatar. Ça a été Pastore, Thiago Motta. Mais ça a été à ce moment-là. Au moment où il y avait du Zlatan, du Thiago Motta, du Verratti au milieu, du Pastore. C'était là où il fallait potentiellement arriver en Ligue Europa et essayer d'avoir cette expérience-là dans les grandes coupes d'Europe pour aujourd'hui pouvoir prétendre à gagner cette Ligue des Champions.
Mais c'est pas le Champions Project. Non. Quand tu fais venir Zlatan Ibrahimovic, Maxwell, Thiago Silva, Marquinhos,
tu joues pas la Ligue des Champions.
Et d'ailleurs, ces équipes-là, le PSG version Qatari 1, si on peut dire ça comme ça, la première ère, les meilleurs résultats, c'est quart de finaliste. Et regardez par qui le PSG se fait éliminer.
Chelsea.
Et regardez, c'est les vainqueurs.
Regarde,
systématiquement des vainqueurs. Et partant de ce principe, le club grandit. Tu peux pas.
Tu me dis, quand on regarde le mercato qu'ils ont fait. Quand tu construis un effectif comme le Paris Saint-Germain, ouais, avec les investissements qui ont été consentis, tu ne peux pas viser l'Europa League. Ce n'est pas possible.
Mais oui, ce n'est pas possible. Tu veux viser quoi alors? On vise la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on se dit? Alors, attends, Bilal, qu'est-ce qu'on se dit? Ça veut dire que dès qu'on arrive à la fin de première partie de saison, on va se dire quoi? On va se dire à chaque fois, ah bon, ben on verra potentiellement la saison prochaine pour Paris Saint-Germain.
C'est toujours la même chose, quoi.
C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on
revient sur toujours un engrenage qui fonctionne.
Franchement, vous n'en avez pas marre qu'à chaque fois, début de deuxième saison,
deuxième
partie de saison, ouais, ça se répète.
Je pense que
c'est 14
février de ce côté-là, tu vois, comme tu dis, être supporter du Paris Saint-Germain, c'est un état d'esprit.
Oui,
okay. Et je pense que aujourd'hui, les supporters du Paris Saint-Germain sont quand même très heureux. Et d'ailleurs, il y en a qui sont présents sur ce plateau. Et ils pourraient même d'ailleurs réagir, Bilou. Ouais. Ils sont très heureux d'être dans cette situation-là.
J'ai pas mis le micro, hein.
Ouais, plutôt que. Et d'ailleurs, il peut même venir à côté de moi.
Hein. Bien sûr.
Il peut même venir à côté de moi.
Ouais.
Et de ce côté-là, il y a d'autres clubs français qui ont des gros palmarès. Qui chaque saison on dit ils vont essayer de remporter Europa League,
allez Europa League.
Conference League,
ouais, Conference
mais ils n'y arrivent même pas,
Alisson et Benji, oui, parce qu'on va se perdre.
Je trouve
le Paris Saint-Germain,
non mais je trouve ce débat un petit peu à côté de la plaque. Il y a un objectif, non mais honnêtement il y a un objectif que le Paris Saint-Germain n'arrive pas à atteindre.
Alors c'est quoi?
Mais c'est la Ligue des Champions pour l'instant, ça ne fonctionne pas. On a pris le parallèle de Manchester City, ça leur a pris plus de 10 ans pour y arriver et asseoir son autorité sur la première ligue. Chelsea aussi qui a injecté énormément d'argent. Il y a des cycles dans le football, c'est-à-dire que même un club comme le Real Madrid qui est le club le plus titré européennement, il y a quelques années ils ont passé 10 ans de complètement disette, c'est-à-dire que pas une Ligue des Champions, c'est-à-dire que même en championnat c'était très, très difficile et on a tendance à l'oublier, même pour le Real Madrid, c'est-à-dire le plus grand club du monde aujourd'hui. On a aussi l'exemple du Barça qui jusqu'à 5-6 ans ne passent pas les huitièmes de finale. Donc je veux dire par là que les échecs dans le football, on a le Paris Saint-Germain, c'est pas le pire échec qu'on a à l'heure actuelle dans le football.
C'est
pas
important.
Le Paris Saint-Germain n'a pas commencé. Non mais le Paris Saint-Germain n'a pas commencé quand le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain. Donc quand on dit que le Paris Saint-Germain n'a pas d'histoire, l'Europe ils connaissent pas, etc. Ça aussi c'est pas vrai.
Le Paris Saint-Germain et Marseille qui ont deux coupes d'Europe.
Exactement.
C'est très des coupes quand même. Oui mais quand même c'est la coupe des coupes.
C'est
le PSG remporte la Ligue des Champions, ça devient le club français le plus titré en Coupe d'Europe.
Juste pour terminer aussi mon propos, aujourd'hui le Paris Saint-Germain n'est pas mort. C'est-à-dire qu'en championnat, c'est le premier. Ils font cavalier seul pour l'instant en tête de la Ligue 1 Uber Eats. Et en Ligue des Champions, même si effectivement il y a beaucoup de si, etc., de faut sortir tous nos potes mathématiciens pour commencer à compter et comprendre ce qui va se passer quand le Paris Saint-Germain affrontera Dortmund. Mais le Paris Saint-Germain a son destin entre les mains.
Rapidement, parce qu'on a beaucoup de réactions. Vas-y.
Juste pour revenir à Alisson qui dit c'est pas un échec. Je suis désolé, quand tu arrives à dépenser des millions et des milliards sur des joueurs comme Kylian Mbappé, comme Neymar, sur ces joueurs-là et qu'au final l'objectif n'est pas atteint, je suis désolé de te le dire et je suis désolé que ça va peut-être te faire mal, mais c'est un grand échec.
C'est un gros échec.
Il faut remettre aussi les pendules à l'heure. Je suis désolé, il n'y a aucun club qui fait ça.
On revient aussi à Benji, on l'a pas entendu Benji.
Faut pas confondre échec et désillusion. Il y a Giannis en tête, ça va te parler. Il y a Giannis Antetokounmpo qui en NBA a été sollicité par des journalistes qui ont dit vous avez fait une belle saison, mais vous avez failli dans le dernier palier. Est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'on oublie tout ce qu'on a fait?
On en parlait avec Vivien.
Le travail technique, le travail à l'entraînement, les relations au sein du club, les matchs gagnés, les matchs perdus, ce n'est pas un échec. C'est peut-être une désillusion pour les supporters qui voient ça bien assis dans leur canapé en français, mais ce n'est pas un échec.
Attention, je suis d'accord. Pour moi, quand je parle d'échec, c'est pas parce qu'on dit échec que derrière on abandonne. Ça peut être un échec et derrière, effectivement, tu peux continuer et tu peux continuer à te battre.
Benji, on l'écoute, Benji. On
soit bien d'accord, si c'est Paris Saint-Germain là et relégué en Ligue Europa, ce sera quand même un échec sur la saison. Cependant, là où je vous rejoins, c'est qu'on parle quand même d'un Paris Saint-Germain qui a perdu Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti, entre autres, qui sont trois leaders technique dans le jeu et que tu dois te retrouver à faire 100 et à les remplacer sur le terrain. On ne se rend pas compte de ce que tu dois remplacer et de la charge que ça fait pour l'entraîneur et ce qu'il doit mettre en place derrière. Enfin, c'est tout à fait normal que tu aies un Luis Enrique qui prenne du temps, qui installe des choses, qui travaille bien, voit ce qu'il veut mettre en place. Et moi, je préfère un entraîneur qui prend du temps, qui assume des échecs, mais où tu vois une vraie patte et que derrière, ça peut monter.
C'est là que je suis pas tout à fait d'accord.
Devant Achille, il n'a pas assumé.
Quand on dit qu'il assume ses échecs, et c'est pour ça que je voulais revenir ce que tu as dit, Benji, et ce que Achille a dit tout à l'heure.
Alors
là, je suis d'accord qu'il travaille bien, etc. Mais ce qui me dérange avec Luis Enrique, c'est que justement, il a cette assurance justement de Nagelsmann un peu arrogant. Tu sais, je sais tout, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Et là, ça me dérange parce que moi, je trouve que sur certains choix, il se trompe, notamment à Newcastle. Je pense que justement, aligner Danilo, pour moi, c'est se tromper. Fallait faire comme le match précédent. Tu remets Hernandez dans l'axe et éventuellement, t'as Mukiele qui est pas mal, il faut le dire. Alors oui, pour l'instant, peut-être qu'il rentre pas dans ses plans, mais je pense en tout cas pour ce match-là, il aurait été plus qu'utile. Ouais. Et donc voilà, il y a certaines choses, pour moi, il se trompe et il ne reconnaît pas.
Allez, il est avec nous, il nous a suivi depuis le début de cette émission. On va lui donner le micro, le mic, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé l'entendre. C'est Tariq ce soir pour cette première année sur l'antenne de BFM. Tariq, le Paris Saint-Germain, où va-t-on, mais que fait-on aussi?
Ouais, bonsoir tout le monde. Déjà moi, ce qui m'a dérangé, c'est l'argument sur l'Europa League, le fait de commencer peut-être voir petit par rapport aux investissements. Moi, c'est pas entendable parce que se dire qu'un potentiellement le Paris Saint-Germain ferait exprès de terminer troisième pour pouvoir gagner cette Europa League ou alors terminer quatrième de son championnat, c'est inentendable cet argument-là. Et le fait aussi de se dire que c'est un échec de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions avec toutes ces années-là. Quand tu as pris l'exemple de Manchester City, je te rappelle qu'ils se sont fait éliminer contre Lyon, contre Tottenham, ils ont galéré, ils ont eu aussi des désillusions, mais au fil du temps, ils ont fini par la gagner. Je peux te dire la même chose aussi pour Chelsea. Et voilà, il faut du temps. Quand tu regardes un petit peu les dernières équipes qui l'ont gagné ces dernières années, c'est des équipes historiques. Le Real Madrid, ils t'en ont pris 5. T'as Chelsea qui a repris la Ligue des Champions, t'as Liverpool, c'est des équipes historiques. Et j'ai envie de te dire, il n'y a qu'une seule équipe à la fin qui gagne cette compétition.
Pour les supporters parisiens,
ils
ont énormément de chance qu'en France, il n'y ait pas de concurrent direct en Ligue des Champions. Parce que le temps que, on va dire, est-ce qu'on peut appeler ça du temps perdu, mais le temps que Paris perde. Aujourd'hui, à ne pas performer dans cette compétition, un autre club français peut le faire. Et Monaco,
malheureusement,
aujourd'hui, en Angleterre, on parle de Manchester City.
Malheureusement, quand on voit l'Olympique de Marseille, qui a quand même 250 millions d'euros de budget, n'est pas capable de suivre une conférence.
C'est Marseille-Paris, le problème. C'est pas bon. Merci à Achille, merci à Alisson d'avoir été avec nous sur l'antenne de BFM. Merci à Ryan, merci à Vivien, sans oublier Bruno, Benji. Merci à toi. Un bon week-end à toutes et à tous. Un grand merci aussi à Tariq de nous avoir suivis avec Sabrina. Allez, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa qui arrive à 21h.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.